Tout confesseur, s'il trahit le secret de la confession, il est puni lui-même immédiatement en étant excommunié. Donc c'est très grave, en fait, il y a un secret absolu de la confession. Et la plupart des États modernes, la France par exemple, reconnaissent ce secret de la confession. Et donc les prêtres ne sont pas obligés de dire ce qu'ils ont entendu en confession.
Et du coup, quel est leur moyen d'action par rapport à la personne qui se confesse?
Si le prêtre voit qu'en fait il n'y a pas de repentir de la part du pénitent, soit qu'il estime que la chose est trop grave et donc que le pénitent doit aller se dénoncer à la justice civile, ou s'il s'agissait de choses commises par un prêtre aux autorités ecclésiastiques, à ce moment-là, il peut lui dire en fait, je ne vous donnerai l'absolution que si vous allez vous dénoncer aux autorités, soit civiles, pénales, soit ecclésiastiques. Il ne fait pas une dénonciation à son évêque. En fait, il doit pousser le pénitent qui est venu se confesser à aller lui-même parler à l'évêque. Ou alors il devrait, si c'était la victime qui venait elle-même parler, pousser la victime à aller voir l'évêque et en fait à faire cette dénonciation qui permet ensuite, en dehors tout à fait du secret de la confession, de commencer la procédure.
Quand on est un prêtre et qu'on a commis une très très grosse faute, la parole d'un de ses confrères, frères peut agir?
C'est ce qu'on espère en fait, qu'il accorde suffisamment d'importance au sacrement de la réconciliation pour qu'en allant se confesser, en fait, il ait vraiment la volonté d'être réconcilié avec Dieu et avec l'Église, et aussi donc de faire ce qu'il faut pour réparer le mal qu'il a commis.
Dans le cas où ces abus continuent, se poursuivent, le prêtre évidemment qui écoute en confession, il est quand même bloqué, alors il refuse l'absolution, mais qu'est-ce qu'il fait dans le cas où lui ne supporte plus de devoir porter le secret de la confession?
Lui, en ce qui concerne sa conscience en tant que confesseur, il a bien sûr la faculté de parler lui-même avec son propre confesseur, sans trahir le secret de la confession, mais en fait il peut évoquer un cas sans donner de détails bien sûr spécifiques, avoir un soutien spirituel ou technique. S'il n'est pas compétent en droit canon, s'il se sent dépassé, il peut à ce moment-là s'adresser à son évêque, et puis il y a des choses qui sont déférées à Rome de temps en temps.
Et qu'est-ce qui fait justement qu'on défère?
Le pape Jean-Paul II en fait a fait promulguer des documents en 1988 et de nouveau en 2001, qui définissent certains délits plus graves, ceux qui sont commis contre l'Eucharistie, par exemple la profanation des espèces eucharistiques, ou alors les violences sexuelles commises contre les mineurs de moins de 18 ans.
Et du coup, qu'est-ce que ça dit, ces deux textes?
Un évêque qui aurait connaissance que dans son diocèse, un de ses prêtres ou diacres, ou même un confrère évêque, est coupable soit de cet abus contre les espèces eucharistiques, soit de violences contre les mineurs et d'abus sexuels, doit en référer à la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome.
Donc il n'y a pas un silence imposé depuis la publication de ces deux textes de Jean-Paul II?
Non, en fait, le secret de la confession, c'est-à-dire l'identité de la personne qui a commis le délit, reste dans le for interne du confesseur, mais en revanche, il y a une manière d'engager une procédure, évidemment, à l'intérieur de l'Église pour établir si il y a une dénonciation, si elle est vraie ou fausse, et puis si on établit dans l'enquête diocésaine qu'il y a matière à aller à Rome, alors on défère le cas à Rome.
Et donc, ça n'est pas la ROTE qu'on associe souvent à la justice vaticane qui s'en occupe, mais la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Voilà, exactement, parce que c'est une matière disciplinaire et dont on a estimé qu'elle est tellement grave qu'elle sort du système judiciaire de l'Église, avec les tribunaux diocésains d'appel et puis la ROTE romaine qui est l'instance suprême à Rome. Ça va à la Congrégation pour la doctrine de la foi, parce que là, on touche vraiment au cœur de l'identité et du ministère du prêtre.
Une fois que la Congrégation pour la doctrine de la foi entend parler de cas, etc., est-ce que c'est à elle de faire des enquêtes? Quelle décision elle peut prendre? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est collégial?
On regarde en fait les fruits de l'enquête diocésaine et puis on regarde si la culpabilité a été suffisamment établie ou s'il faut continuer l'enquête. La Congrégation pour la doctrine de la foi, soit elle renvoie en fait le jugement à l'évêque du lieu, soit elle se réserve à elle-même, je schématise, les peines qu'il y a à prononcer contre le clerc avéré coupable de tel délit. Donc soit on peut suggérer au prêtre de demander lui-même à être dispensé des obligations ecclésiastiques, soit, s'il refuse, on peut aussi le renvoyer de l'état clérical.
Ce sont toujours des membres de l'Église qui mènent l'enquête, ou est-ce qu'on peut, dans certains cas, collaborer avec des autorités judiciaires?
Il peut y avoir, et ce sera le plus souvent le cas, deux procédures parallèles. Je pense qu'après, ça dépend en fait des conférences épiscopales, à quel point en fait il y a une collaboration et une automaticité des procédures d'un côté à l'intérieur de l'Église et de l'autre côté sur le plan civil et pénal. Aux États-Unis, par exemple, la conférence épiscopale a décidé qu'un prêtre qui serait jugé coupable d'avoir commis un seul acte de pédophilie serait immédiatement renvoyé de l'État clérical une fois qu'on a établi cette culpabilité.
Mais ça veut quand même dire que la justice au civil ou au pénal peut avoir un impact sur l'Église aussi.
L'Église prend tout à fait en compte les enquêtes diligentées par les autorités civiles et pénales. Elle-même mène son enquête de son côté. De toute façon, les délits ne sont pas exactement les mêmes, puisque par exemple pour l'Église, le fait qu'un prêtre ait des rapports sexuels avec des adultes est un délit, alors que selon les lois civiles, ce sont des rapports sexuels entre deux adultes consentants, donc il n'y a pas de faute pénale, par exemple.
Quand un prêtre est reconnu coupable d'abus sur mineurs, est-ce que l'Église a une responsabilité morale ou est-ce que ça n'est que le prêtre qui est concerné par sa propre faute ?
En termes de réparation pour les victimes,
oui.
La responsabilité de l'Église, évidemment, peut être prouvée pour différentes choses, notamment dans les cas où, tout en sachant que le prêtre avait commis des actes pédophiles, on l'aurait muté dans un endroit où il aurait été de nouveau en contact avec des enfants. Là, on peut établir qu'il y a une responsabilité particulièrement grave de l'Église. Après, on voit au cas par cas ce qu'il faut établir comme responsabilité et ce qu'on peut demander comme dédommagement, sachant que là encore, suivant la culture juridique, entre les États-Unis où les avocats peuvent demander une très grande partie des dommages et intérêts accordés ou l'Europe où ce genre de pratique n'est pas autorisé par la loi, les sommes demandées sont vraiment variées de 1 à 100.
Qu'est-ce que vous diriez à qui voit ces scandales arriver les uns après les autres ?
L'Église doit faire la lumière sur les cas, notamment d'abus sur mineurs qui se sont produits. Il faut établir la justice, il n'y a pas de raison que les clercs échappent à la justice humaine ni à la justice de l'Église. Et d'ailleurs, le pape est tout à fait disposé et même très engagé. Dès avant l'élection de Joseph Ratzinger comme Benoît XVI, il a évoqué la saleté qui était dans l'Église et qu'il fallait nettoyer. Pourquoi est-ce qu'il en a parlé ? C'est parce qu'avant, il a été le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc, plus que n'importe qui d'autre, il savait l'étendue de tous les problèmes.